Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait en disant « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Et réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. » J'ai fait exprès tout à l'heure de lire lentement l'introduction de cet évangile, parce qu'on s'aperçoit bien que les mots sous la plume de Matthieu sont tout à fait pesés pour nous offrir une image de Jésus tout à fait particulière, qui n'est pas celle du roi fils de David, qui n'est pas celle du serviteur souffrant d'Isaïe, qui n'est pas celle du fils de l'homme de Daniel, mais qui est celle de Moïse. On nous dit que Jésus, d'abord, voit les foules. On s'imagine de grandes foules devant lui. En fait, on n'en sait trop rien. Mais voilà, ça nous rappelle aussi que Moïse, lorsqu'il a donné les 10 paroles de la loi, se trouvait devant tout le peuple pour retransmettre ces paroles que Dieu lui avait données. On nous dit que Jésus gravit la montagne, comme Moïse avait gravi l'Horeb, le mont Sinaï. On nous dit que Jésus s'assied et il est en position d'enseignement. On nous dit que ses disciples s'approchent de lui. Souvenons-nous, dimanche dernier, nous entendions l'appel des 4 premiers disciples de Jésus. Et puis, 3 mots qui répètent la même chose, ouvrant la bouche, il les enseignait en disant, c'est peut-être un peu lourd comme tournure, mais on met en relief que la parole que nous allons entendre est vraiment une parole divine parce qu'elle vient de Jésus, le Fils de Dieu. Elle sort de sa bouche comme les paroles créatrices de la Genèse. Dieu dit et cela fut. Et c'est un enseignement vraiment tout à fait merveilleux, sublime du Seigneur qui nous est donné. Après, peut-être avons-nous du mal à le recevoir comme tel, c'est-à-dire à enfiler les 7, 8, 9 béatitudes qui suivent, parce que, précisément, c'est quelque chose de tellement dense qu'on a du mal à le recevoir en ne saisissant toute la profondeur. Alors, sans doute, faut-il ne pas séparer ces béatitudes que nous venons d'entendre, c'est-à-dire une sorte de préface, ne pas les séparer de toute la suite des 3 chapitres 7, 8, pardon, 5, 6 et 7 de Matthieu, où c'est le premier ensemble des paroles de Jésus que retranscrit Matthieu, le discours sur la montagne, les béatitudes et tout ce qui suit. Matthieu, par 5 fois dans son évangile, va ainsi avoir des regroupements de paroles qu'il a lui-même façonnées sous cette forme. Et puis, il ne faut pas séparer non plus ces béatitudes de ce qui suit juste après, et que nous entendrons dimanche prochain, et qui parle du sel et de la lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Parce que c'est vraiment la clé qui nous permet aussi de mieux saisir ce que Jésus dit. Jésus parle du bonheur, avec ce mot qui revient, qui est tiré de la sagesse biblique, tiré des psaumes, heureux. Mais en même temps, ce n'est pas une étiquette qu'on va coller, mais c'est une dynamique. Et certains biblistes ou certains juifs qui ont traduit ces béatitudes ont traduit le mot heureux par en marche, pour montrer cette dynamique à laquelle nous sommes appelés. Et l'appel de Jésus, précisément, nous y répondons. Et c'est ce que accomplit Jésus à travers les foules qui sont devant lui. Il appelle à lui. Il vient d'appeler ses premiers disciples, mais il appelle à lui. Et il y a deux catégories de personnes qui sont prêtes à entendre son appel immédiat. Ce sont les pauvres de cœur et ce sont les persécutés. Ce sont les deux seules béatitudes que vous avez dans cet ensemble qui sont rédigées au présent, avec le même refrain, car il est à eux le royaume des cieux. Ceux qui sont pauvres de cœur et ceux qui sont persécutés. Ceux qui sont pauvres de cœur, c'est-à-dire qui vraiment ont laissé Dieu travailler leur cœur jusqu'à être totalement dépossédés d'eux-mêmes pour être remplis de sa présence. Et puis ceux qui sont persécutés, c'est-à-dire qui témoignent, mais qui rencontrent sans cesse de l'opposition à ce témoignage. C'est pour ça que les béatitudes se terminent par une neuvième qui nous parle, qui nous exhorte. Heureux, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés, si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que, au fond, le témoignage que nous avons à rendre par une vie s'inspirant des béatitudes ne peut qu'attirer des persécutions, des oppositions. Je disais, le sel et la lumière, les racines et les fruits, on pourrait employer cet autre binôme pour faire comprendre. Jésus nous parle de ceux qui cultivent les racines, c'est-à-dire les pauvres de cœur, ceux qui pleurent, nous dit-on ici. C'est-à-dire, quand on traduit de l'araméen, c'est ceux qui ont renoncé à tout, qui vraiment sont dépouillés des richesses du monde, les doux, c'est-à-dire les humbles, ceux qui ont faim et soif de la sainteté, qui ont ce désir de correspondre, de s'ajuster à l'amour de Dieu. Mais tout cela, ce ne sont pas peut-être d'abord des actes à poser dans la société, mais ce sont des réalités spirituelles à cultiver. Et on nous parle des racines de la sainteté. Et puis, après, en parlant des persécutions et des oppositions, Jésus va parler des actes à poser. Il va les résumer en trois mots, en trois béatitudes, la miséricorde. Nous avons à témoigner de la miséricorde et de la bonté de Dieu. La pureté de cœur qu'on va retrouver dans l'enseignement des béatitudes sous la forme de la pureté personnelle et de la pureté conjugale. Et puis aussi la paix, être des acteurs et des artisans de paix. Ce sont des actes à poser, c'est la lumière que nous avons à transmettre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre en cultivant l'intériorité spirituelle, l'abandon à Dieu, vous remettre dans les mains de l'Esprit-Saint. Et mais vous êtes aussi la lumière du monde par les actes que vous posez et qui témoignent de l'amour de Dieu. Il nous faut reprendre ces béatitudes, j'allais dire, les lire, les relire, mais peut-être une par une, en nous laissant enseigner, interroger, questionner, en cheminant intérieurement. Il y a des personnes, quelquefois, quand elles vont au sacrement de réconciliation, qui disent « je ne sais pas très bien quoi dire, je ne vois pas très bien mes péchés ». Eh bien, tiens, il y a un bon, un bon ensemble ici qui peut permettre de vérifier comment nous vivons. Est-ce que c'est en conformité avec l'évangile de Jésus ou pas? Alors, nous comprenons bien que si Jésus a pris la posture de Moïse, ce n'est pas pour nous donner un enseignement philosophique comme on ferait dans le monde grec. Ce n'est pas pour nous donner non plus une loi nouvelle, comparable à celle de Moïse, comme on ferait dans le judaïsme, mais c'est pour nous mettre en marche précisément, pour nous appeler à le suivre. Les béatitudes, c'est un appel à la suite de Jésus. Et tout l'évangile, d'ailleurs, n'est pas un enseignement philosophique, mais ni une loi, mais un appel à marcher à la suite du Messie, à la suite du Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui nous appelle à entrer dans le royaume des cieux.